Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Guillaume. Donc on reste dans l'économie après Marie Viennot. Les incertitudes sur le libre-échange États-Unis-Asie, États-Unis-Europe et même Chine-Asie avec notre invité Jean-François Desmilio. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste de l'Asie. Il va y avoir d'ailleurs un sommet de l'ALENA, l'Association de libre-échange nord-américain, dans quelques jours. Alors libre-échange, c'est évidemment une religion du libéralisme à l'anglo-saxonne. Alors deux tables de la loi. Dans cette religion, aucune barrière douanière ou le moins de barrières douanières possibles, et puis l'harmonisation des normes. Alors cela est plus complexe en pratique. Il faut rappeler que les États-Unis, qui sont les champions universels du libre-échange, ont signé un traité de libre-échange avec une dizaine de pays asiatiques, dont rien ne dit d'ailleurs qu'il sera ratifié par le Congrès américain. Apparemment, la candidate Clinton est finalement contre, et le candidat Trump est farouchement contre. Et puis de son côté, la Chine signe des accords de libre-échange avec ses voisins d'Asie du Sud-Est, peut-être, vous allez nous le dire, avec ses voisins d'Asie du Nord-Est. Et c'est un comportement très américain d'ailleurs. Et puis l'Union européenne, elle, est engagée dans une négociation avec les États-Unis et on va en reparler. Alors quel est le contexte au fond dans lequel se situe ce grand mouvement d'accord ou de tentative d'accord de libre-échange?
Il y a un double contexte. En fait, le premier contexte, c'est bien sûr l'essoufflement de l'OMC, ce qu'on appelait l'OMC, donc les différents cycles.
L'Organisation mondiale du commerce.
L'Organisation mondiale du commerce, dont l'objectif était finalement de mettre sous le même toit multilatéral tous les pays impliqués dans le commerce international et d'avoir un accord absolument consensuel. On s'est rendu compte que, en particulier pour des sujets agricoles, on butait et qu'il y avait des camps qui étaient en train de s'établir, en particulier entre pays en développement et pays développés. Et donc on est entré dans une phase où se sont multipliés les traités bilatéraux ou les traités régionaux. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est une certaine forme de démondialisation et de re-régionalisation des accords de commerce.
Avec des intérêts bien compris, des grandes puissances économiques.
Alors des intérêts bien compris et puis aussi, on va dire, des paranoïas ou des inquiétudes plus ou moins fondées. D'abord l'inquiétude de la Chine qui se voit résolument exclue de celui qui est le plus avancé néanmoins aujourd'hui, c'est-à-dire le traité transpacifique, le TPP, qui a été initié par Obama, qui en avait fait un objectif déjà de son premier mandat, qui n'a pas réussi à le faire établir au bout de son premier mandat, mais dans son deuxième mandat, il a réussi effectivement en Nouvelle-Zélande à réunir tous les pays autour de ce traité qui doit encore être ratifié. Donc l'un des enjeux
principaux,
l'un des enjeux principaux, c'est effectivement que ce traité soit en vigueur après ratification.
Est-ce qu'il a une chance d'être ratifié?
C'est très compliqué. La fenêtre d'opportunité que les plus optimistes verraient, ce serait maintenant la période qu'on appelle la période de lame duck d'Obama, oui. C'est-à-dire entre l'élection où on sait que
canard
par définition
boiteux, oui.
Il cessera d'être président et l'inauguration de son successeur ou de celle qui lui succédera. Mais c'est quand même un espoir extrêmement limité parce que déjà on a des parlementaires qui sont pas très favorables à ça et on serait pratiquement dans un déni de démocratie si on avait cette situation.
Est-ce qu'aux États-Unis, Jean-François Desmilio, les opinions publiques jouent un rôle important ou est-ce que c'est considéré comme un chapitre assez technique?
Elle joue un rôle important pour les deux raisons à la fois. D'abord parce que c'est très technique et donc dans des sujets très techniques comme celui-ci, c'est très difficile d'emmener l'adhésion d'une opinion publique et donc sa première réaction va être de freiner. On est par ailleurs dans un contexte très curieux où le commerce mondial croît moins vite que la croissance mondiale, donc ce qui veut bien dire que l'idée libérale, ou en tout cas cette espèce de généralisation du commerce qu'on voyait un peu comme le moteur futur de la croissance, est en train de s'essouffler. Donc tout le monde en a un peu conscience.
Vous le datez de quelle période cet essoufflement, ou le début de cet essoufflement?
Le déclencheur a été bien sûr la crise financière, mais c'est quelques années après la crise financière que ce ralentissement par rapport à la croissance mondiale s'est mis en place. C'est pas forcément d'ailleurs parce qu'il y a moins d'échanges, mais il faut voir aussi qu'il y a un autre volet, c'est le volet des investissements. Parfois, quand vous investissez avec de l'argent étranger dans un pays tiers, il n'y a plus besoin de commercer avec ce pays, puisque ce que vous lui vendiez, eh bien, vous allez le fabriquer dans le pays. Il faut bien voir que l'une des raisons aussi des oppositions qui peuvent avoir lieu à ces deux traités, l'européen l'européen ou américain et l'américano-asiatique, c'est qu'aussi ils ont des volets d'investissement. Et qu'à d'ailleurs, partir de ces volets d'investissement, oui, beaucoup de choses seraient possibles.
Il s'appelle Jean-François Di Meglio, d'ailleurs, le partenariat, et très exactement, le partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements, le partenariat transatlantique.
Absolument. Et donc, cette barrière aux investissements qui permet, dans certains cas, de protéger des industries nationales, elle tombe lorsque on signe un tel traité, d'où les oppositions potentielles, puisque chaque pays aujourd'hui se rend bien compte que l'enjeu principal, ce sont les investissements, et derrière les investissements d'ailleurs, les normes aussi, parce que lorsqu'un pays investit dans un pays tiers, il va souvent essayer d'arriver avec sa capacité et ses habitus de production, et donc ses normes. Le combat de la deuxième moitié du XXIe siècle, si on peut faire de la prospective très longue, c'est peut-être celui des normes. Aujourd'hui, nous fonctionnons sur des normes qui sont des normes généralement dans le monde entier occidentales, d'abord américaines, un peu européennes, à l'intérieur de l'Union européenne, très certainement européennes. Mais on voit bien qu'il y a une volonté des pays asiatiques en particulier de percer certains marchés, en particulier certains marchés de la haute technologie, avec leurs propres normes. Et derrière ces questions d'investissement, il y a bien sûr la question des normes.
Alors Jean-François Di Meglio, l'une des grandes idées du partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements, donc traité en gros de libre-échange, c'était de ne pas se faire un jour appliquer des normes voulues par la Chine.
Absolument.
C'était ça, et donc de faire un pot commun entre l'Europe et les États-Unis réciproquement.
Absolument. Ensuite, l'enjeu, c'est aussi de voir sur quel terrain on va se mettre d'accord. Et il est vrai que l'avenir de ces différents traités, très complexes, soumis à des opinions publiques, même si on est encore loin de ce stade, puisqu'on est au 14e round en juillet pour le
traité transatlantique. Ça avait commencé en juillet 2013.
On en est encore très loin. Il faudra aussi passer devant des parlements et des parlements nationaux aussi.
Donc, et 28 en l'occurrence.
Alors, 27,
plus le Parlement européen.
Selon le sujet du Brexit.
Oui, il y a encore cette affaire-là, dont on va parler certainement vendredi prochain. Et puis, juste une chose, la Chine, elle aussi, de son côté, signe des accords de libre-échange avec ses partenaires régionaux.
Ben pour elle, c'est assez vital, même si elle met moins l'accent sur l'aspect commercial de sa croissance. Elle a quand même besoin d'avoir des partenaires et elle voit bien que tous ces traités sont une réaction à la montée en puissance de la Chine, première puissance commerciale mondiale et la plupart du temps premier partenaire des plus grands pays du monde. Son rôle se verrait diminué par la mise en place de ce genre de traité. Donc, elle constitue elle aussi son glacis régional. Elle a été très frappée par le fait que le Vietnam signe, ou en tout cas entre dans le traité américain, que la Malaisie aussi, qui sans être aussi proche historiquement de la Chine que le Vietnam, entre dans ce traité. Et donc, bien sûr, elle se voit menacée par tous ces traités.
C'est un peu un combat de titans sur le plan, on va dire, régional. Et sur le plan, est-ce qu'on peut dire protectionniste aussi, d'une certaine façon?
Certainement, on est en train de changer de philosophie du commerce international.
C'est-à-dire qu'on va vers une régionalisation.
Régionalisation, absolument.
C'est le maître mot pour vous?
C'est un peu le maître mot et démondialisation peut-être.
Et démondialisation peut-être. Bon, on a du grain à moudre. Merci beaucoup Jean-François Meglio. Et je rappelle, vous êtes économiste, spécialiste de l'Asie, bien sûr. Demain, nous allons parler d'ailleurs d'une façon aussi un peu économique de l'Algérie. Quel scénario possible lors de la succession à la tête de l'État? Et notre invité sera Feriel Fattès, franceculture.fr, pour réécouter l'émission et la télécharger.